Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en RDC. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les autorités de la République démocratique du Congo à lever l'interdiction des manifestations publiques pour faciliter l'organisation d'élections crédibles et inclusives en décembre, notamment les présidentielles. Le point avec Marie Benson.
Selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, autoriser les manifestations publiques en RDC favoriserait l'ouverture de l'espace politique. Il souhaite une transition démocratique du pouvoir. Les manifestations politiques sont interdites depuis décembre 2016. La répression de marches des catholiques depuis le 31 décembre a fait une quinzaine de morts. Antonio Guterres souhaite que cette interdiction de manifester soit levée et il encourage le gouvernement à favoriser les candidatures de femmes. Il demande aussi la libération de fonds pour la Commission électorale nationale indépendante. Le secrétaire général de l'ONU prévoit de se rendre à Kinshasa avec le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, pour des discussions avec le président Joseph Kabila sur les élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre.
Au Gabon, le nouveau gouvernement est en place après avoir prêté serment lundi devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Trois anciens opposants en font partie. La Cour constitutionnelle avait décidé le mois dernier de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et exigé la démission du précédent gouvernement, Bagassi Koura.
Le nouveau gouvernement est responsable uniquement devant le président Ali Bongo Ondimba. Cette équipe intérimaire va rester en place jusqu'à la tenue des élections législatives qui doivent déboucher sur la formation d'un autre gouvernement. Pour le moment, la date des législatives reste inconnue. Trois opposants font leur entrée, dont deux poids lourds, Michel Menga Messon et Jean de Dieu Mukanyi Iwangu, qui faisaient partie des soutiens de l'opposant Jean Ping à la dernière présidentielle en 2016. Le nouveau gouvernement possède en tout sept représentants de l'opposition. Le pouvoir n'a pas organisé les élections législatives à la date butoir du 30 avril. La Cour constitutionnelle a donc décidé de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et avait exigé la démission du gouvernement.
Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno a nommé lundi les membres de son gouvernement après la mise en place vendredi dernier de la nouvelle constitution de la 4e République qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. Ce nouveau gouvernement, composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, prêtera serment devant le président de la République comme l'exige la nouvelle charte fondamentale promulguée vendredi. L'équipe gouvernementale compte 9 femmes, conformément au vœu d'Idriss Déby Itno de favoriser la représentativité des femmes en politique. 10 titulaires de longue date de portefeuille ministériel quittent le gouvernement, notamment le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du Pétrole. Cameroun, le gouvernement lutte contre la prolifération des armes tout en faisant face à 2 insurrections. Les militaires camerounais ont découvert une importante cache d'armes dans un entrepôt à Hawaï, près de la capitale Yaoundé. Une découverte qui alimente toutes les discussions, d'autant plus que le pays doit tenir cette année une élection présidentielle. Le reportage de Monkey Edwin Kinzeka sur ce dossier, rendu par Lionel Gaïma.
Les militaires camerounais ont effectué le 30 avril un raid sur un entrepôt. Des habitants avaient signalé des mouvements suspects. L'adjudant-chef Patrice Bella a dirigé l'opération.
Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes inconnues. Voilà comment naît la mission et voir le succès que vous avez constaté.
À l'intérieur du magasin, les soldats ont découvert plus de 10 000 munitions, des explosifs, des fusils et des couteaux. Toutes les personnes arrêtées sont de nationalité camerounaise. La découverte de cette cache d'armes a suscité beaucoup d'inquiétudes car Hawaï est à quelques 55 km de Yaoundé, la capitale. La ville accueille une école internationale militaire appelée EU Force qui forme les militaires africains aux techniques de maintien de la paix. Les officiels camerounais soupçonnent des armes venues d'un pays voisin comme le Nigeria, mais les habitants se demandent comment ces armes ont pu passer la frontière de tous les postes de police et de gendarmerie sans être repérées. En tout cas, ces découvertes alimentent de chaudes discussions. Joseph Mbida est ingénieur du génie civil.
Lorsque quelqu'un a les munitions et les armes, ce qu'il a en projet. Lorsque vous convoquez le quartier Hawaï, c'est à la sortie est de la ville de Yaoundé. Si on porte les munitions à Hawaï, vers où ira-t-on? L'équation la plus simple serait de revenir à Yaoundé. Puisque c'est une question républicaine, je dois dire que je suis inquiet. Je crois que ces gens-là vont être rapidement retrouvés et que les munitions vont être remises là où elles doivent être.
Le Cameroun doit tenir en octobre des élections présidentielles, législatives et municipales. Dans le même temps, l'extrême nord du pays subit des attaques répétées de Boko Haram, pendant que dans les deux régions anglophones, les rebelles séparatistes demandent l'indépendance. Le mois dernier, le gouvernement a interdit toute vente légale d'armes à des civils. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a affirmé pendant une réunion sur la sécurité à Yaoundé qu'il y avait près de 30 000 armes de guerre et armes légères en circulation au Cameroun.
Ça atteint des proportions inquiétantes et représente une réelle menace à l'ordre public. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où les gens louent les armes et munitions pour aller braquer. Il y a plus de 27 000 armes et munitions en circulation.
Regarde le contexte sécuritaire actuel dans notre pays. Le gouvernement n'avait pas de choix que de prendre ses responsabilités en procédant à la fermeture à titre conservatoire de toutes les armureries installées dans certaines régions et bientôt dans tout le pays.
Une loi adoptée en 2016 punit de 5 à 10 ans de prison toute possession illégale d'armes. Mais la possession illégale d'armes est jugée par un tribunal militaire qui peut condamner à la prison à perpétuité si la personne jugée avait l'intention de troubler la paix et l'ordre public.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes dans la Corne de l'Afrique. 9 soldats kényans ont été tués hier par l'explosion d'un engin piégé dissimulé en bordure de route au passage de leur convoi dans le sud de la Somalie. Irénée Hermanoumbo donne des détails sur la réaction de la présidence kényane.
Le président Uhuru Kenyatta se dit horrifié et attristé d'apprendre que son pays a perdu 9 jeunes patriotes dans une lâche attaque terroriste en Somalie. La mission pour laquelle ils ont tout donné se poursuivra jusqu'à ce que les djihadistes Shebab soient vaincus et que le peuple somalien soit de nouveau en sécurité, a déclaré le président kényan sans donner de précision sur les circonstances de l'attaque. Les victimes se trouvaient à bord d'un véhicule qui a été entièrement détruit par l'explosion d'une mine artisanale. L'engin piégé a éventré le véhicule, tuant les soldats sur le coup. Le convoi de la mission faisait route vers une base militaire de Doblé dans la région somalienne du Jubaland. Les Shebab ont revendiqué l'attentat via leur agence de presse affirmant qu'ils avaient fait 15 morts dans les rangs de l'armée kényane. Depuis 2011, le Kenya participe à la mission de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda.
Mauritanie, les médecins mauritaniens sont en grève illimitée depuis lundi pour réclamer des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux. Le point avec Raïssa Girondin.
Les médecins mauritaniens réclament des salaires alignés sur ceux de leurs collègues de la région, a déclaré Mohamed Houldaïa, leader syndical. Il précise qu'ils sont entrés dans une grève illimitée après une série de grèves partielles depuis le 16 avril. Le ministre de la Santé, Kane Boubacar, a récemment demandé à une délégation de grévistes de cesser leur mouvement et de revenir à la table des négociations, mais les syndicats ont rejeté sa proposition. Nous avons entamé ces négociations en 2016. Et nous ne pouvons pas continuer éternellement à perdre du temps pour rien, a expliqué Mohamed Houldaïa. Selon ce responsable syndical, le secteur médical souffre, en plus de la vétusté des équipements et d'une large diffusion de médicaments contrefaits. La Mauritanie compte quelque 800 médecins généralistes et spécialistes, soit un médecin pour environ 4500 habitants.
Mozambique, le président mozambicain Philippe Nyusi prononcera demain mercredi l'éloge funèbre de son rival Afonso Dhlakama, chef de la RENAMO, le principal parti d'opposition du pays, décédé la semaine dernière. Leader historique de la RENAMO depuis 39 ans, M. Dhlakama, 65 ans, est mort le 3 mai des suites d'une maladie dans son camp retranché des montagnes de Golongoza dans le centre du pays. Créé un an après l'indépendance du Mozambique en 1975, la RENAMO a affronté l'armée du Frelimo au pouvoir pendant 16 ans, de 1976 à 1992, lors d'une guerre civile meurtrière. La paix est revenue, la RENAMO est devenue un parti d'opposition, mais elle a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise absolue du Frelimo sur le pays. Toutefois, Afonso Dhlakama avait engagé récemment des discussions de paix directes avec le président Philippe Nyusi, qui semblait proche d'aboutir. Et pour terminer, le président américain Donald Trump pourrait mettre aujourd'hui à exécution sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Diplomates et observateurs en sont persuadés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.